3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro.
Ronald William Howard, mieux connu sous le nom de Ron Howard, est né à Duncan, aux États-Unis, le 1er mars 1954. Frère aîné du comédien Clint Howard et issu de parents acteurs, Ron Howard aura une carrière cinématographique et ce dès l'âge de 18 mois. Puis, on le verra dans un premier rôle au cinéma en 1973, celui de Steve Bolander dans American Graffiti de George Lucas. Par la suite, il se retrouvera aux côtés de l'acteur John Wayne dans le western du réalisateur Don Siegel, Le Dernier des Géants, en 1974. Mais c'est son rôle de Richie Cunningham dans la série de télévision à succès intitulée Happy Days qui lui donnera une certaine célébrité de 1974 à 1980. C'est durant cette période qu'il fera la connaissance du producteur américain Roger Corman, plus précisément l'année 1976, qui allait alors transformer sa carrière. En effet, et ce, dès son enfance, Ron Howard a un rêve, celui de devenir un réalisateur de films. Connaissant la réputation de Roger Corman, celle de donner la chance à de nouveaux réalisateurs de faire leur preuve derrière la caméra, Howard acceptera de jouer dans la comédie policière produite par Corman intitulée Eat My Dust, avec l'espoir qu'il obtiendra par la suite une chance de tester ses talents de metteur en scène sur une autre production. Lorsque Eat My Dust obtiendra un incroyable succès sur le grand écran, Ron Howard tentera alors sa chance et demandera à Corman de réaliser un film pour lui, et ce sans aucun coût supplémentaire au niveau de son salaire d'acteur. Corman acceptera alors et la compagnie de ce dernier, New World Pictures, produira et distribuera le premier film du jeune homme qui s'intitulera alors Grand Theft Auto, et ce en 1977. C'est donc le sujet de notre programme double d'aujourd'hui, soit les débuts à la réalisation d'un des meilleurs réalisateurs d'Hollywood, un homme responsable de films à succès tels que Splash en 1984, Cocoon en 1985, Willow en 88, Parenthood en 89, Backdraft en 1990, Apollo 13 en 1995, A Beautiful Mind en 2001 et The Da Vinci Code en 2006. Donc, startez vos moteurs, mettez votre ceinture de sécurité, car je vous propose ici un programme double rempli de poursuites automobiles de carambolages spectaculaires qui mettent en vedette un Chevrolet Camaro 68 et une magnifique Rolls-Royce, un mélange qui lancera la carrière de metteur en scène de l'acteur, réalisateur et producteur Ron Howard.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand.
Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. is the Indianapolis Motor Speedway. Under the supervision of the United States Auto Club, Ford is on this track today to establish a new 500-mile record for stock cars, to prove that nobody outperforms Ford. The 56 Ford heads for the starting line. There's the flag, and our Ford's off. Here's where Ford's blazing acceleration and split-second control really pay off. Lap after grueling lap, this Ford V8 barrels around the track at average speeds as high as 113 miles per hour for a full lap. Here's the checkered flag of victory. Ford sets a new Indianapolis Speedway record for stock cars, averaging 107 miles per hour for the full 500 miles, including refueling stops. Here's Pete DiPaolo, former Indianapolis 500 winner and now head of the Ford team.
If you've been confused by all the claims and counterclaims about all these racing victories, one fact cannot be challenged. Nobody outperforms Ford. And that's what we proved here at Indianapolis. And that's what Ford proves whenever necessary. It's been true for 20 years, and it's true today, that nobody outperforms Ford.
Split-second control, blazing acceleration, and top performance are yours in any 56 Ford. That's why it's more fun to drive a Ford. Test drive a 56 Ford at your Ford dealers, and you'll see.
And now, on with the show.
I got more speeding tickets than anybody else in the county.
I want to ride in that car.
They steal a super stocker and tell the world to eat my dust. Darlene is in the fast cars. Hoover is in the Darlene. When they get their hands on 700 horses, they've got to get into trouble.
What's this?
They're off on a screaming, squealing, shattering smash-a-thon. A hot date in a hot car, cruising at 150, rubber burning, and Smokey can't put it out.
Let us just blow them away.
And if you want to catch them, I suggest you call the Strategic Air Command.
What, can they catch us?
Yeah, if I run into a wall or something.
Hoover, you're outrageous.
Ron Howard pops the clutch and tells the world to eat my dust.
Eat My Dust, ou À plein gaz, est une comédie policière produite par les studios New World Pictures et qui sortira en salle le 7 avril 1976. Ce film américain est d'une durée de 89 minutes et coûtera plus de 300 000 $ à faire et ramassera plus de 6 millions de $ au box-office, faisant de ce film un des plus grands succès au box-office de la maison de production de Roger Corman. Du côté de la réalisation, on y retrouve Charles B. Griffith, ce réalisateur américain qui nous a donné Up from the Depths et Forbidden Island. Au niveau du siège du producteur, bien sûr, on y retrouve Roger Corman, qui lui a produit des films tels que The Terror, Death Race 2000 et Galaxy of Terrors. Et au poste de scénario, eh bien, encore une fois, ce sera le nom de Charles B. Griffith qui y apparaîtra. Lui qui, bien sûr, a écrit les scénarios de A Bucket of Blood, mais surtout l'excellente version de 1960 de Little Shop of Horrors. Au niveau de la distribution, on y retrouve Ron Howard, Christopher Norris, Brad David, Katie O'Dare, Clint Howard, Rance Howard et Paul Bartel. Pour plaire et impressionner une jolie blonde, le fils adolescent du shérif de la petite ville américaine de Puckerdash vole la voiture d'un champion à l'occasion d'une course et se lance avec elle sur les routes du comté, pris en chasse par toutes les voitures de police de la place dans une folle poursuite qui perturbera la vie des habitants du coin. La carrière d'acteur de Ron Howard était, en 1976, un véritable succès. Possédant plus de deux décennies d'expérience, parce que ses parents étaient très impliqués à Hollywood, Howard avait fait sa marque dans le second film de la carrière de George Lucas, avec qui il développera par la suite une très grande amitié, mais c'est surtout son rôle de Richie Cunningham de 1974 jusqu'en 1980 dans la populaire série télé Happy Days qu'il mettra sur la map. Alors que plusieurs acteurs se seraient contentés de ce succès incroyable, le jeune Ron Howard avait un rêve, celui de devenir réalisateur et producteur de films à Hollywood. C'est alors que Howard sera approché par le réalisateur-producteur Roger Corman pour être l'acteur principal de son prochain film, une comédie policière qui inclurait principalement diverses poursuites automobiles. Corman voulait bénéficier de l'engouement pour le film à poursuite, spécialement après les succès monstres des films comme Vanishing Point en 1972 et l'excellent Dirty Mary, Crazy Larry en 1974. Durant leur rencontre, Howard n'était pas très chaud à l'idée de jouer dans un tel film, précisant même à Corman qu'il commençait à se lasser du métier d'acteur. Il ouvrira donc alors la porte pour que Corman lui donne sa première chance de réalisateur, sachant très bien que le producteur était reconnu à Hollywood pour donner une première chance à de jeunes metteurs en scène. Cependant, Corman allait refuser, ne sentant pas le jeune homme prêt pour ce poste important, mais lui dira qu'il accepterait de le laisser réaliser un film pour lui si Eat My Dust faisait de l'argent au box-office. De plus, le producteur donnera un salaire de base à Howard ainsi qu'un pourcentage des recettes de Eat My Dust. C'est finalement le scénariste-réalisateur Charles B. Griffith qui fut alors choisi pour écrire non seulement le scénario du film, mais le mettre en scène. Avec un budget très restreint de 300 000 $, Griffith allait réaliser le film de poursuite en moins de 4 semaines, qui fut tourné alors au nord de Los Angeles, en Californie. Howard, quant à lui, tournera toutes ses séquences en seulement 10 jours, un cascadeur prenant la place de ce dernier par la suite pour conduire la voiture dans des séquences de poursuite intenses. D'ailleurs, la majorité du tournage pour Howard et Norris se passera dans la voiture et les deux recevront leurs directives à travers un walkie-talkie. Le titre original de production pour Eat My Dust était The Car. Mais celui-ci sera remplacé lors du tournage après que le metteur en scène Charles Griffith dit au producteur Roger Corman que lui et son équipe de tournage n'arrêtaient pas de recevoir continuellement de la poussière et du sable sur eux lors du tournage des poursuites automobiles et que le film devrait porter le titre de Eat My Dust, ce à quoi acquiesta Corman. De plus, cela allait éviter une confusion possible avec un autre film qui était tourné par les studios Universal durant cette même période, avec un budget un peu plus important, soit le drame fantastique de 1977, The Car ou L'Enfer mécanique. Ron Howard n'est pas le seul Howard dans le film. En effet, son frère Clint et son père Rance font également partie de la distribution. Malgré le fait que Ron et Rance ne feront pas une grande carrière dans l'écurie Corman, Clint Howard, lui, apparaîtra dans plus d'une vingtaine de productions du producteur américain. Eat My Dust sera le film qui va inspirer la série à succès de Dukes of Hazzard et le film Smokey and the Bandit et sera également le premier film du genre qui apportera l'aspect du visionnement familial dans ce type de film où personne ne meurt ou encore n'est en réel danger et que d'avoir une attitude rebelle et de fuir la police n'a aucune conséquence grave, ce que nous verrons plus souvent dans des films tels que Grand Theft Auto, Tank et justement la trilogie de Smokey and the Bandit. Eat My Dust sera l'un des films les plus rentables de la maison de production de Roger Corman durant les années 70. À la sortie du long-métrage dans les salles obscures, le critique de film Gene Siskel prétendra qu'Eat My Dust sera l'un des pires films de 1976. Malgré cela, le film aura un succès monstre en salle et deviendra un film culte pour tous les amateurs du genre. Au niveau des points forts, eh bien, les interprètes jouent avec un certain élan et leur interprétation bon enfant les rendent vraiment chaleureux, ce qui nous permet de nous intéresser aux différents personnages du film. Bien que le budget soit très restreint, le long métrage ne perd pas son temps pour nous placer dans l'action, action qui n'arrête en aucun moment. Bien que les gens pourraient trouver les cascades quelque peu ennuyeuses, ce film ne cherche pas à prétendre être autre chose que ce qu'il est et remplit agréablement sa mission, soit celle d'amuser son auditoire et de lui faire oublier ses problèmes pendant 90 minutes. Quelques bons gags vont faire rire l'auditoire avec certitude et sa morale, bien que de base, est quand même présente pour un auditoire plus jeune. Eat My Dust est un petit film plaisant à regarder sans plus. Ce qui nous amène au point faible du film. Le scénario a véritablement une intrigue simpliste où les adolescents sont rois et où les adultes sont traités comme des bouffons. De plus, il y a plusieurs dialogues qui sont tout simplement inutiles. Les exploits de cascadeurs sont assez simplistes vu le petit budget et l'on assiste ici qu'à une série de poursuites avec des accidents qui ne sont point spectaculaires, ce que l'on pourrait s'attendre cependant d'un tel film. Les quelques intermèdes sentimentaux sont vraiment artificiels et ne servent qu'à la petite moralité de l'histoire sans plus. Mais comme je le disais plus haut, c'est un film qui se prend pas pour quelque chose qu'il n'est pas et ce dernier s'assume vraiment dans ses faiblesses. Je dirais que l'effet accéléré de la vitesse des véhicules qui a été réalisé au moment du tournage en augmentant artificiellement la vitesse de ces derniers pourrait fatiguer certains spectateurs. Finalement, le fait qu'il n'y ait aucune conséquence néfaste contre les jeunes adolescents et le fait que les adultes victimes des gestes du personnage de Ron Howard se retrouvent, eux, en prison à sa place, enlève l'aspect réaliste de la chose. Mais comme je disais, le film est plus une comédie dirigée vers un jeune auditoire quelque peu rebelle avec une histoire remplie de naïveté qu'il ne faut vraiment pas prendre au sérieux. Du côté musical, eh bien, la musique est faite par David Grossman, celui qui a réalisé la trame sonore du film Big Bad Mama, Capone et King of the Gypsies. Malheureusement, il n'existe aucune trame sonore sur le marché de Eat My Dust, mais j'ai quand même réussi à vous trouver un petit extrait que je vous fais écouter maintenant.
Yum, yum. It's time for a tasty and refreshing snack. Promise to satisfy your hunger, your thirst, your sweet tooth. So visit our refreshment center now. Let's go!
Here at Ford's Proving Grounds in Dearborn, you're about to see a test crash staged by Ford's Engineering Research Group. Watch the car that's going to be hit. Notice how the doors remain closed in spite of the tremendous impact. Why is this so important? It's important because statistics show that your chances of escaping injury in an automobile accident are doubled when you're not thrown out of the car through an open door. You're twice as safe when you remain inside the protective shell of the car. Now, here's a door with a conventional door latch. It keeps the door tightly closed when the center post is rigid. But in a crash, the impact can spring the door frame like this, and the door can fly open like this. Now, this door is equipped with Ford's new LifeGuard double-grip door latch. When the same force is exerted on the center post, the door remains securely closed. That's because Ford designed this interlocking striker plate here to overlap the door latch rotor like this, and thus withstand forces from two directions. Ford's new LifeGuard door latches give you added protection from doors springing open in a collision. You get them as standard equipment on all the new 56 Fords. And they're only part of a brand new family of safety advances called LifeGuard Design. Why not get the complete story at your Ford dealers?
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
And now, on with the show.
I'm Ron Howard. This is Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto is a love story with cars.
And I love him, and that's why we're going to Las Vegas to get married.
I want my Rolls Royce.
This Rolls Royce isn't exactly mine.
Want to pull over and fool around a little?
Also, it's a comedy.
Yeah!
With car crashes.
But I am a superior driver!
And you know how reckless these young people can be. Couldn't call what Sam and I have done rape.
I know what I call it.
Yeah, get down!
Hot. I'm gonna go with this. Put me on the air now. Break into the record.
Her parents will pay big bucks to anyone who can stop them.
You're just hovering up there like a lousy vulture hoping for a wreck.
Well, if you haven't, I'm gonna report it.
In the course of this calamitous chase to the chapel, Ron's caused the crashing of a $40,000 Rolls Royce, three Cadillac, Mercedes-Benz, Porsche, seven cop cars, four trucks, a very cherry van, a lot of Lincolns, lowriders, 33 screaming street machines. And Ron wrestles his red-hot Rolls up on two wheels into a spectacular chicky run with a whirly bird.
But don't worry, they'll pull off!
Don't worry, they'll pull off.
They're gonna crash!
Look out, Vegas. We're coming in.
Grand Theft Auto, directed by and starring Ron Howard.
Well, hell.
Grand Theft Auto ou Lâcher les bolides est une comédie policière qui a été distribuée par la compagnie New World Pictures le 18 juin 1977. Ce film américain de 84 minutes a coûté plus de 600 000 $ à produire, mais a ramassé plus de 15 millions de $ au box-office. Sur le siège du réalisateur, bien sûr, on y retrouve à ses débuts le metteur en scène, acteur, producteur Ron Howard, lui qui nous a donné, comme je disais au début, les films Cocoon, Backdraft, Apollo 13 et The Paper. Au niveau de la production, on y retrouve John Davidson, ce producteur américain qui a produit des films tels que Big Bad Mama, Piranha, la version 1980, et Airplane. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve Ron Howard, dont il s'agit ici du seul scénario en carrière, ainsi que son père, Rance Howard, qui lui avait déjà travaillé sur le film The Time Crystal. Dans la distribution, on y trouve Ron Howard, Nancy Morgan, Elizabeth Rogers, Barry Cahill, Rance Howard, Paul Linke, Marion Ross, Don Steele, Jack Perkins, Paul Bartel, Gary Marshall, et Clint Howard. La fille d'un politicien millionnaire annonce à ses parents qu'elle veut épouser un camarade étudiant sans argent. Devant le refus opiniâtre de son père d'accepter sa décision, la jeune femme va alors s'emparer de la Rolls-Royce familiale et s'enfuit vers Las Vegas avec son petit ami dans l'espoir de l'épouser. Le politicien lancera alors des détectives privés à leur trousse et promet également une récompense de 25 000 $ à quiconque lui ramènera sa fille et sa voiture de rêve, déclenchant par le fait même une série de poursuites loufoques et spectaculaires. Notre couple parviendra-t-il à se rendre à Las Vegas pour se marier? Durant le tournage de Eat My Dust, Ron Howard en profitera pour étudier le métier de réalisateur, demandant continuellement conseils et posant beaucoup de questions au metteur en scène Charles Griffith. Suite au succès incroyable de Eat My Dust, Ron Howard retournera dans les bureaux du producteur américain Roger Corman pour conclure leur entente initiale. Howard avait alors écrit un scénario avec son père qui était intitulé « Tis the Season » et avait amassé plus de la moitié du budget en Australie pour la réalisation de cette comédie. Corman acceptera alors de cofinancer le film, mais n'était pas très enthousiaste envers le projet. Finalement, il acceptera de financer entièrement le premier film de Howard si ce dernier écrivait un scénario qui serait une sorte de suite à Eat My Dust et qui porterait le titre Grand Theft Auto. Howard acceptera le projet et proposa même à Corman de réaliser le long-métrage sans frais additionnels, ne prenant alors que son salaire d'acteur, le même qu'il avait eu sur la production de Eat My Dust. Howard rentrera alors chez lui et demandera à son père Rance si ce dernier pensait être capable avec lui d'écrire un scénario de poursuite automobile qui serait intitulé Grand Theft Auto, ce à quoi acquiescera ce dernier. Rance Howard prit alors l'un de ses scénarios qu'il avait écrit pour l'acteur Burt Reynolds et le retravaillera avec son fils. Une fois terminé, Howard apportera le document littéraire à Corman, qui donna alors son accord au projet, spécialement après avoir regardé les trois courts-métrages réalisés par le jeune homme au temps où il étudiait le cinéma à la USC's Film School. Avant le début de la production, Corman donnera à Howard plusieurs conseils sur comment bien se préparer pour son tournage, ce qui était amicalement appelé à l'époque le Corman's One Minute Course, dans lequel le producteur parlait de composition d'images, d'organisation et de planification et autre chose dans le domaine de la production extrêmement importante à savoir pour le tournage d'un film à petit budget. Encore aujourd'hui, même s'il travaille sur des films à budget important, Howard continue d'appliquer ses conseils qui lui ont permis de devenir un des réalisateurs et des producteurs les plus importants d'Hollywood. Pour Grand Theft Auto, Howard obtiendra plus du double du budget de Eat My Dust et débutera le tournage de son premier film dans le secteur de Victorville, en Californie. Durant les 15 jours de tournage, qui s'espacèrent sur une période de 3 semaines, le jeune homme perdra entre 10 et 12 livres, principalement dû au stress. Corman travaillera sur cette production à titre de producteur exécutif aux côtés du père de Ron, Rance, qui croyait, lui, au talent du metteur en scène de son fils. Deux Rolls-Royce furent utilisés durant la production et Howard s'amusera à détruire des voitures de luxe telles que des Porsche, des Lincoln, des Cadillac et des MG. De plus, toutes les séquences tournées sur les autoroutes de Los Angeles furent tournées sans aucune autorisation, une marque de commerce des productions de Corman. Le titre de Grand Theft Auto était l'autre titre final qui devait initialement être utilisé sur la production de Eat My Dust, mais qui fut, à ce moment-là, mis de côté. Cependant, des troubles de droits d'auteur vont survenir au niveau de la création du populaire jeu vidéo qui sera alors réalisé par la compagnie Rockstar North Limited, appelée à l'époque DMA Design. En effet, c'est actuellement la compagnie Fox Atomic qui possède les droits cinématographiques du film de 1977 de Ron Howard, et cette compagnie pourrait produire un remake de ce film, mais pas un film basé sur le jeu vidéo de 1997, ou encore ne pourrait produire un jeu vidéo basé sur le film de Ron Howard. Du côté de la compagnie Rockstar, cette dernière ne peut réaliser un film pour adapter son jeu vidéo sur le grand écran, mais a le droit de produire autant de jeux vidéo qu'elle veut avec le titre Grand Theft Auto, ce titre, au niveau légal, leur appartenant dans l'univers du jeu vidéo seulement. Après avoir filmé la dernière séquence du film, Ron et son père Renz s'enlacèrent et diront en même temps « We did it », sans savoir que ce film allait propulser Ron Howard dans les hautes sphères d'Hollywood. Deux choses sont à noter ici. Le film sera monté par le metteur en scène Joe Dante, à qui l'on doit notamment les films Gremlins, The Howling et Inner Space, et il s'agira ici du seul film dans la carrière de Ron Howard où ce dernier jouera dans la production qu'il mettra lui-même en scène. Du côté des points forts, eh bien, écoutez, l'action débute très rapidement. Après seulement 10 minutes, on assiste à une première poursuite et un premier carambolage. D'ailleurs, le jeune Ron Howard, qui venait tout juste d'avoir 23 ans, ne perd pas de temps. Le générique du début du film ne dure qu'une seule minute et l'histoire débute tout de suite. Tout comme Eat My Dust, le scénario est vraiment simpliste, naïf et enfantin, mais cependant, on assiste ici à des cascades beaucoup plus spectaculaires que dans Eat My Dust. D'ailleurs, l'attraction de Grand Theft Auto est fort probablement la destruction de véhicules vraiment dispendieux, comme je le disais un peu plus haut, c'est-à-dire les Porsche, les Lincoln, les Cadillac, avec comme moment épique ce derby de démolition dans lequel tous les participants s'amuseront à détruire la Rolls-Royce de nos héros. La mise en scène de Ron Howard ici est excellente pour son premier long-métrage et nous montre une certaine aisance dans la direction de ses acteurs et de la caméra. Du côté humour, il y a quelques gags qui sont assez amusants. Mais c'est du côté de la distribution, il faut souligner surtout le travail de l'actrice Marion Ross, qui interprétait le personnage de la mère de Richie Cunningham dans la série Happy Days. Elle est ici excellente et malgré ses courtes apparitions, l'actrice se démarque complètement du reste du peloton. Du côté des points faibles, eh bien, malgré quelques gags amusants, dans l'ensemble, l'humour est plutôt simpliste et facile, voire même enfantin. Le reste de la distribution est quand même acceptable, bien que forcé par moments, tout comme le rythme du long-métrage qui est vraiment inégal. Les dialogues sont simples et encore une fois, les gestes de nos héros sont applaudis par la foule et il n'y a aucune conséquence néfaste à leurs actions. Un véritable conte de fées, quoi. Mais, tout comme Eat My Dust, ce film n'est là que pour vous faire passer un 90 minutes de plaisir afin de vous faire oublier tous vos tracas, ce qu'il fait admirablement bien. Du côté de la musique, eh bien, celle-ci est composée par le compositeur Peter Ivers, dont il s'agit ici de sa seule trame sonore en carrière. On peut retrouver la chanson thème du film sur l'album Ron Howard Passions and Achievements, qui a été distribué en 1997 par Millen Records, que je vais vous faire écouter ici.
Grand theft, you stole my heart. Grand theft, we were in your car. Whoa, whoa, romance is on the right. Whoa, whoa, disaster's on.
Pour les cotes artistiques, du côté de Eat My Dust, Mediafilm a coté le film 5. Je fais la même chose, c'est un film qui s'écoute très bien. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, du côté de la régie du cinéma, on cote le film général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous. Pour Grand Theft Auto, même chose, Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec un 5. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, même chose au niveau de la régie du cinéma. On cote le film général. J'y vais également pour une cote pour toute la famille. Pour la disponibilité en format DVD Blu-ray, eh bien, le film Eat My Dust n'est disponible qu'en DVD en version anglaise seulement, dans trois versions différentes, soit l'édition DVD des studios King, il y a la Supercharge Edition de Buena Vista Home Video et l'espèce de coffret double qui inclut Eat My Dust et Grand Theft Auto qui a été faite par Shout Factory. Du côté de Grand Theft Auto, même chose, le film n'est disponible qu'en DVD en version anglaise seulement. Vous avez l'édition régulière de New Concord qui a été réalisée, l'édition 25th Anniversary New Concord Special Edition qui a été faite également par New Concord et finalement, comme je disais tout à l'heure, l'édition double de Shout Factory qui inclut Eat My Dust et Grand Theft Auto. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.